Chapitre 30. Ce que peut faire le bâton des serments. Juste au-dessus de l'horizon, le soleil découpait la lointaine silhouette de la tour blanche. Pourtant, le froid de la nuit ne se dissipait pas, bien au contraire, et les nuages gris qui dérivaient dans le ciel pouvaient annoncer de la neige. Si l'hiver déclinait, il s'éternisait quand même, car le printemps aurait dû être là depuis longtemps. Mais les frimas, semblait-il, desserraient à contre-cœur leur emprise sur le monde. Alors que sa tente se dressait à l'écart des autres, les bruits matinaux arrivaient jusqu'aux oreilles des Gwen. Le camp bourdonnait d'activité. Même si tôt, des travailleurs devaient transporter de l'eau fraîchement puisée et, dans les charrettes, du bois de chauffe et du charbon. Des servantes étaient sans doute occupées à récupérer le petit déjeuner des sœurs, tandis que les novices du deuxième service filaient vers la tente réfectoire. En chemin, elles croisaient les filles du premier service, en route vers leur cours en compagnie de celles du troisième. Même si personne ne s'en doutait, cette journée serait décisive. Selon toute probabilité, elle verrait la fin des négociations ambiguës qui se déroulaient sous un pavillon à Darein, au pied du pont de Tarvalon. Ambigu des deux côtés, il fallait le préciser. Sur l'autre berge du fleuve, les maraudeurs d'Elaïda continuaient à frapper en toute impunité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce serait la dernière séance avant un bon moment. Et Gwen baissa les yeux sur son bol de céréales, repéra une petite impureté noire, la préleva du bout d'un doigt et s'essuya avec une serviette, en omettant de regarder d'assez près pour voir s'il s'agissait d'un charançon. Quand on n'était pas sûr, on s'inquiétait moins de ce qui restait dans la bouillie. Goûtant le mélange, elle tenta de se concentrer sur les fines tranches d'abricots séchés que Chessa y avait ajoutées. Quelque chose venait-il de craquer sous ses dents ?
Comme disait ma mère, tout remplit le ventre,
fit Chessa, comme si elle parlait toute seule. Sa façon de conseiller est Gwen, sans jamais franchir la ligne qui séparait une servante de sa maîtresse. En tout cas, elle procédait ainsi en l'absence d'Alima, partie très tôt ce matin-là. Assise sur un des coffres à vêtements, Chessa attendait, au cas où Egwen aurait besoin de quelque chose ou voudrait lui confier une course. Régulièrement, son regard dérivait sur la pile de vêtements qu'il faudrait apporter aux blanchisseuses. Devant Egwen, elle n'hésitait jamais à repriser. En revanche, trier le linge sale ne lui aurait pas paru convenable. Ravalant une grimace, Egwen s'apprêta à dire à la servante de filer prendre son petit déjeuner. Bizarrement, Chessa se refusait à manger tant que sa maîtresse n'avait pas terminé. Avant que la chair d'Amerline ait pu ouvrir la bouche, Nissao entra sous la tente, l'aura du Saïdar l'enveloppant. Par le rabat, Egwen aperçut Sarin, le petit champion chauve et barbu de la sœur. La capuche de Nissao était abaissée et soigneusement disposée sur ses épaules, pour qu'on voie la doublure jaune. À part ça, elle serrait sur son torse les pans de son manteau, comme si elle était transie. Sans dire un mot, elle regarda Chessa avec une insistance qui se suffisait à elle-même. La servante attendit un signe d'Egwen qui hocha la tête, puis elle prit son manteau et se hâta de sortir. Incapable de voir l'aura du pouvoir, elle était assez fine pour deviner que sa maîtresse avait besoin d'intimité.
« Kairen Stang est morte !»
annonça Nissao de but en blanc, sans bouger un cil et d'un ton froid et neutre. Assez petite pour qu'Egwen ait l'impression d'être grande, elle se redressa de toute sa taille, comme pour gagner un pouce ou deux. Un comportement inhabituel chez elle.
Avant mon arrivée, cette sœur avait déjà sondé les résonances. Kairen a été tuée par le Saïdin, ça ne fait pas de doute. La nuque brisée, en miettes, devrais-je dire. Comme si on avait fait faire un tour complet à sa tête. Au moins, elle n'a pas eu le temps de souffrir.
Nissao prit une inspiration haletante. Consciente qu'elle venait de montrer son trouble, elle tenta de se grandir encore plus.
En réaction, son champion a fait une crise de folie meurtrière. Quelqu'un lui a donné des herbes spéciales pour qu'il s'endorme. Et quand il se réveillera, nous aurons des problèmes.
Bizarrement, Nissao n'avait pas prononcé le mot « herbe » avec le mépris de rigueur chez les sœurs jaunes. La preuve qu'elle était perturbée, même si elle ne le montrait pas. Et Gwen posa sa cuillère sur la petite table et s'adossa à son siège, qui, soudain, ne lui parut plus confortable du tout. Désormais, la meilleure, après Léane, ce serait Baud Cotton, une novice. Et Gwen s'efforça de ne pas penser à ce que Baud était d'autre. Avec quelques jours d'entraînement de plus, elle s'en sortirait presque aussi bien que Kairen. Presque. et Gwen n'entra pas dans les détails. Nisao connaissait certains secrets, mais pas tous.
D'abord Anaya, puis Keiren. Toutes les deux de l'âge à bleu. Tu vois un autre lien entre elles ?
Nisao secoua la tête.
Si je me souviens bien, Anaya avait reçu le châle depuis 50 ou 60 ans quand Keiren est arrivée à la tour. Elles avaient peut-être des connaissances communes. Mère, je n'en sais rien.
Trahissant sa fatigue, Nisao s'affaissa un peu. Sa furtive enquête sur la mort d'Anaya n'avait mené nulle part. Et à présent, Egwen allait lui demander de se charger aussi de Keiren.
Trouve le coupable,
ordonna la chair de Merlin.
Sans faire de vagues.
Ce nouveau meurtre en produirait bien assez. Inutile d'en rajouter. Un moment, Egwen dévisagea son interlocutrice. Nisao pouvait présenter des excuses après coup, ou prétendre qu'elle avait des doutes depuis le début. Mais jusque-là, elle avait toujours été un modèle d'assurance et de certitude, digne de l'âge à jaune. Aujourd'hui, ce n'était plus le cas.
Beaucoup de sœurs vont et viennent en étant unies à la source. J'en ai remarqué plusieurs, mère,
répondit Nisao, très raide. Elle pointa le menton, comme pour défier la chair d'Amerlin. Puis l'aura du Saïdar se dissipa. Comme si elle avait encore plus froid, elle s'en étouffa davantage dans son manteau.
Je doute que ça aurait aidé Keiren. Sa fin fut trop brutale. Mais je concède que ça peut être rassurant.
Dès que la petite Aes Sedai fut partie, Egwen prit sa cuillère et remua son bol. Plus trace de parasites noirs. Hélas, elle n'avait plus faim. Du coup, elle se leva, posa sur ses épaules l'étole aux sept couleurs, puis mit son manteau. Aujourd'hui, tout particulièrement, il n'était pas question de broyer du noir dans son coin. Oui, en ce jour, elle devait suivre à la lettre sa routine quotidienne. Dehors, des charrettes à grandes roues sillonnaient les allées givrées du camp. Leurs conducteurs protégés par de lourds manteaux, ces véhicules transportaient des tonneaux d'eau, de bois de chauffe et de gros sacs de charbon. Comme d'habitude, les familles de novices qui arpentaient les trottoirs au pas de course prenaient quand même le temps de saluer les Aes Sedai qu'elles croisaient. Manquer de respect à une sœur pouvait valoir une punition corporelle. Mais il en allait de même avec les retards, et les enseignantes se montraient en général plus sévères que les autres sœurs, enclines à l'indulgence parce qu'elles savaient quelle pression subissaient les novices. Ces pauvres filles sautaient presque dans la gadoue dès qu'elles apercevaient l'étole. Et Gwen refusa de s'en formaliser, car elle était d'assez mauvaise humeur comme ça. Mais qu'il était agaçant de voir ses novices tenter de faire la révérence, glisser et s'étaler si une ou deux cousines ne les retenaient pas. Cousine était le mot utilisé par les membres d'une même famille, afin de s'identifier. De fait, ça tissait entre ces femmes un lien spécial, comme si elles avaient vraiment été de proches parentes. Malgré sa bonne résolution, Egwen se laissa gâter l'humeur par les Aes Sedai qu'elle aperçut de ci de là. Elles aussi se fendirent de révérence, mais le problème était ailleurs. Entre sa tante et le bureau de la Myrline, elle n'en croisa qu'une dizaine, presque toutes enveloppées de l'aura du Saïdar. Elles marchaient le plus souvent par deux, leurs champions aux aguets comme des fauves en chasse. Egwen repensa à l'époque où une fièvre mortelle avait frappé Champ des Mondes. Selon les conseils de Doral Baran, la sage-dame d'alors, tout le monde se baladait avec sur le nez un mouchoir imbibé d'eau de vie, et les gens s'épiaient pour voir qui s'écroulerait en premier, foudroyé par la maladie. L'épidémie avait fait 11 morts, mais il avait fallu des mois après le dernier décès pour que les mouchoirs disparaissent. Très longtemps, Egwen avait associé l'odeur des alcools forts à celle de la peur. Dans le camp, elle pouvait presque la sentir de nouveau. Deux sœurs avaient été assassinées par un homme capable de canaliser et d'apparaître puis de disparaître à sa guise. Dans les rangs des Aes Sedai, la peur faisait de pires ravages que n'importe quelle fièvre. La tente bureau était déjà bien chaude quand Egwen y arriva et un parfum de rose montait du brasero. De plus, toutes les lampes brûlaient. La routine d'Egwen était connue de bien des gens. Après avoir pendu son manteau, la chair d'Amirline s'assit à sa table de travail, en sécurisant d'instinct le pied de sa chaise, qui menaçait toujours de se plier. Tout ce qui lui restait à faire, c'était de se laisser porter par sa routine. Le lendemain, elle annoncerait les résultats des négociations. Sa première visiteuse fut une surprise, sans doute la dernière femme qu'elle s'attendait à voir. Élancée, la brune Théodrine, aux joues rondes, était une domanie au teint cuivré et à la bouche boudeuse. Naguère, elle donnait l'impression d'être toujours prête à sourire. Approchant assez pour que les franges de son châle frôlent le plateau de la table de travail, elle exécuta une impeccable révérence. Le protocole appelant le protocole, Egwen lui tendit la main gauche pour qu'elle embrasse sa bague au serpent.
Romanda demande si tu peux la recevoir aujourd'hui, mère. »
Le ton de Théodrine aussi était boudeur.
« Quand elle voudra, ma fille, quand elle voudra. »
Une réponse prudente. Sans broncher, Théodrine s'inclina, puis sembla se préparer à sortir. À cet instant, une acceptée entra, avança jusqu'à frôler la sœur marron, puis abaissa sa capuche blanche. Très mince, Emara était aussi petite que Nissao. Alors qu'on aurait pu craindre qu'un coup de vent l'emporte, avec les novices confiées à ses bons soins, elle se montrait plus ferme que bien des sœurs. Cela dit, elle se révélait aussi très dure envers elle-même, et les novices n'étaient pas là non plus pour être chouchoutées. Baissant les yeux sur les franges du châle de Théodrine, Emara eut un rictus méprisant qu'elle ravala aussitôt. Puis elle se fendit d'une révérence à la seule intention d'Egwen. Théodrine s'empourpra de colère. Egwen tapa sur la table, assez fort pour faire vibrer son encrier de pierre et son pot de sable.
« As-tu oublié que tu dois le respect à une Aes Sedai, ma fille ?»
Emara blêmit. La chair d'Amerline n'était pas réputée pour plaisanter. Puis elle s'inclina devant Théodrine, qui accepta ses excuses implicites d'un hochement de tête avant de quitter la tente au pas de course. Son accent ilianien aggravé par la nervosité, Emara balbutia ce qui se révéla être une demande de l'Elaine, qui aurait voulu rencontrer la chair d'Amerline. Par le passé, beaucoup moins protocolaire, Romanda et l'Elaine entraient et sortaient du bureau comme d'un moulin. La déclaration de guerre à Elaïda avait changé bien des choses. Pas toutes, certes, mais assez pour que les lignes bougent. Egwen fit à l'Elaine la même réponse qu'à Romanda, mais d'un ton plus sec. Terrorisée, Emara faillit s'en mêler les pinceaux en exécutant sa révérence, puis elle s'enfuit de la tente. Un clou de plus dans la légende d'Egwen Alvéré, la chair d'Amerline qui aurait fait passer Serei Bagand pour une douce agnelle. Dès que l'accepté fut sorti, Egwen leva la main qu'elle avait abattue sur la table et dévoila ce qu'elle avait caché. Un message, déposé par Théodrine pendant qu'elle embrassait sa bague. Alors qu'elle le dépliait, la chair d'Amerline plissa le front. L'écriture, très enjolivée, restait lisible, mais il y avait une tache d'encre dans un coin de la feuille. Pourtant, Théodrine était une personne très soigneuse. Essayait-elle de se conformer à la réputation brouillonne des sœurs marron?
Romanda a envoyé deux Aes Sedai et Kyrienne via un portail pour enquêter sur une rumeur qui met les sœurs jaunes en ébullition. Mère, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je le découvrirai. J'ai entendu une sœur mentionner Ninévé, pas comme si elle était aux Kyrienne, mais comme si la rumeur avait un rapport avec elle.
L'idiote était même allé jusqu'à signer ces mots.
Qu'est-ce donc, mère?
Lança une voix. Egwen sursauta et faillit agir trop tard pour empêcher le fâcheux pied de se refermer. Grognonne, elle foudroya du regard Siouan, qui se tenait près du rabat, son châle à franges bleues sur un bras et son dossier de cuir sous l'autre. Voyant Egwen dans tous ses états, elle fronça les sourcils.
« Lissa !»
grommela Egwen, entendant le message à Siouan. Sursauter, elle, bon sang, ce n'était pas le moment.
« Tu as su pour Kyrienne ?»
Bien sûr que Siouan savait. Pourtant, poser la question avait quelque chose de rassurant.
« As-tu fait les changements nécessaires ?»
Par la lumière, que c'était pompeux. On aurait dit du Romanda dans le texte. À l'évidence, elle était tendue à craquer. Alors qu'il était presque trop tard pour ça, Egwen songea à s'unir au Saïdar et à tisser une protection contre les oreilles indiscrètes. Une fois cette défense érigée, elle s'avisa que ce n'était peut-être pas le moment de montrer à toutes les sœurs qu'elle désirait tenir un conciliabule avec Siouan. Comme toujours, l'ancienne chair d'Amerline était d'un calme impressionnant. Des tempêtes, elle en avait essuyé, en s'arrangeant pour revivre après s'être noyée, d'une certaine façon.
Ce n'est pas urgent, mère. Tant que nous ne serons pas sûrs au sujet des bateaux, ça ne pressera pas.
Siouan posa son dossier sur la table, entre l'encrier et le pot de sable.
Moins Baud aura de temps pour y réfléchir, moins elle paniquera.
Un calme souverain. L'assassinat de deux sœurs n'ébranlait pas Siouan, tout comme l'idée d'en faire remplacer une par une novice toute fraîche. Pourtant, tandis qu'elle lisait le message, elle plissa le front.
Pour commencer, marmonna-t-elle. Faolain se cache, on ne sait où. Puis Théodrine t'apporte ce mot, au lieu de me le remettre. Cette fille a autant de cervelle qu'un oiseau pêcheur. On dirait presque qu'elle veut proclamer que tu l'as chargée de surveiller Romanda.
Surveiller, un mot commode pour dire espionner. Siouan et Egwen étaient toutes deux des expertes en euphémisme. Pour une Aes Sedai, c'était indispensable. Pourtant, en ce jour, Egwen se serait bien passé de circonvolution.
Elle cherche peut-être à se faire démasquer. Si elle est là, ce que Romanda lui dise, que dire, que penser et que faire, ce serait une voie de sortie. Siouan, je viens de recevoir une acceptée qui a ricané en voyant le châle de Théodrine.
Siouan eut un geste presque nonchalant.
Romanda tente de dire à tout le monde ce qu'il convient de faire et de penser. Pour le reste, ça changera quand Théodrine et Faolaine pourront jurer sur le bâton des serments. Je doute que quelqu'un insiste pour qu'elles aient accès au châle en ce moment. En attendant que ça arrive, elles devront prendre les choses comme elles viendront.
« Ce ne sera pas suffisant, Siouan !»
fit Egwene, en réussissant à parler d'un ton ferme. Non sans effort, cependant. Quand elle avait demandé aux deux femmes de s'attacher au service de Romanda et Lelaine, elle mesurait les risques qu'elle leur faisait courir. Mais elle devait découvrir ce que les représentantes mijotaient. Aujourd'hui, elle avait toujours ce besoin. Pourtant, elle avait un devoir envers des femmes qui avaient été les premières à lui jurer fidélité, et ce de leur propre gré. De plus,
tout ce qu'on peut dire de Théodrine et de Faolaine peut l'être aussi de moi. Si des acceptés osent ne pas leur témoigner de respect.
Au moins, Egwene ne devait pas redouter ça. Les sœurs, c'était une autre affaire, en particulier les représentantes.
Siouan, si les Aes Sedai doutent de moi, je n'aurai aucune chance d'unifier la tour. Mère, désormais, Lelaine et Romanda savent que tu es pour de bon la chair d'Amerlin, que ça leur plaise ou non. Ces deux-là n'auraient pas suivi Dea Nariman. Selon moi, elle commence à te voir comme une nouvelle Edarna Noregovna.
C'est possible,
lâcha sèchement Egwene. Dehan était considérée comme la sauveuse de la tour, après le désastre de Bonwyn avec Arthur Eldefaucon. Edarna, quant à elle, était tenue pour la meilleure politicienne qui ait jamais reçu le bâton et l'étole. Deux chairs d'Amerlin de légende.
Comme tu me l'as rappelé, je dois prendre garde à ne pas finir comme Shayne Chunla.
Puissante dirigeante au début de son mandat, Shayne était vite devenue une marionnette. Siouan approuva du chef. Chargée d'apprendre à Egwene l'histoire de la tour, elle évoquait souvent les dirigeantes qui avaient commis des erreurs fatales, comme elle.
Cette affaire est différente, cela dit.
Siouan se tapota les doigts avec le message.
Quand Théodrine me tombera sous la main, je lui ferai regretter de ne plus être une novice. Quant à Faolaine, si ces femmes croient pouvoir se défiler maintenant, je les viderai comme de vulgaires poissons sur un quai.
« Tu videras qui ?»
demanda Sheryam en entrant sous la tente, un courant d'air glacial la précédant. Egwene faillit encore se retrouver les fesses par terre. Elle allait devoir dénicher un siège qui ne menace pas de se replier dès qu'elle bougeait. Elle aurait parié qu'Edarna ne sursautait jamais, comme si on lui avait glissé des orties dans le dos.
« Personne qui t'intéresse !»
répondit Siouan en passant le message sur la flamme d'une des lampes de bureau. Quand il eut fini de se consumer entre ses doigts, elle l'émietta et laissa tomber les cendres sur le sol. Seuls Egwene, Siouan et Léane connaissaient la vérité sur Théodrine et Faolaine, à part les deux sœurs elles-mêmes, bien entendu. Mais elles ignoraient quand même pas mal de choses. Sheryam ne se formalisa pas de la rebuffade. Depuis son accès de faiblesse au hall, elle semblait avoir complètement récupéré. Pour le moins, elle avait recouvré son apparence digne, à quelques détails près. Alors qu'elle regardait Siouan brûler le message, ses yeux verts inclinés s'étaient imperceptiblement plissés, et elle avait effleuré l'étole bleue qui reposait sur ses épaules, comme pour se souvenir de sa présence. Egwene ayant rechigné à mettre sa gardienne dans une telle position, Sheryam ne devait pas obéir à Siouan. Cela dit, Siouan non plus n'avait aucun compte à lui rendre. De quoi énerver Sheryam, désormais beaucoup plus haut dans la hiérarchie du pouvoir que la chair d'Amerlin déchue. Savoir qu'elle n'était pas autorisée à connaître certains secrets devait lui déplaire. Mais il faudrait qu'elle s'y fasse. Elle aussi avait un message qu'elle posa devant Egwene.
En chemin, mère, j'ai croisé Tiana, et je lui ai promis de te remettre ce mot.
Le mot, c'était la liste des fugitives. La guerre quotidienne est désormais plus sporadique, depuis qu'on avait organisé les novices en famille. Les cousines cédaient à supporter les frustrations et les larmes, et parvenaient à se dissuader de faire les pires bêtises, déserter, par exemple. D'ailleurs, il n'y avait qu'un nom sur la feuille, Nicolas Trihil. Egwene soupira, puis reposa le court rapport. La soif d'apprendre de Nicolas, avait-elle parié, l'empêcherait de fuir, malgré son mécontentement croissant. Une grossière erreur. En même temps, ce n'était pas une grande perte. Fausse et sans scrupules, Nicolas était prêt à recourir au chantage, ou à toute autre malversation, pour être bien vu et plus rapidement promu. Très probablement, elle avait eu une complice. Pour fuir avec elle, Areina n'aurait pas hésité à voler des chevaux. La date qui accompagnait le nom attira soudain l'attention des Gwen. Les deux dates, en réalité, suivies de points d'interrogation. Les mois et les jours étaient rarement mentionnés, sauf dans les traités et les documents officiels. Signés et scellés devant témoins dans la cité d'Iliane, le 12e jour de Saven, en l'an de grâce. Et bien entendu, dans les rapports de ce genre ou sur le registre des novices, pour noter la date d'arrivée d'une femme. Dans l'usage courant, mentionner le nombre de jours avant ou après une fête donnée suffisait largement. Écrite, les dates semblaient toujours bizarres aux yeux des Gwen. En général, elle comptait sur ses doigts pour être sûre.
Nicolas s'est enfui il y a 3 ou 4 jours, et Tiana me prévient maintenant? Sans pouvoir préciser si c'est 3 ou 4 d'ailleurs.
Les cousines de la fugitive l'ont couverte, mère.
Shyriam secoua la tête presque tristement. En même temps, elle eut l'ombre d'un sourire.
Pas parce qu'elle l'adore. Au contraire, elle se réjouissait de la voir partir, et elles ont sûrement peur qu'elle revienne. Avec son don de prédiction, elle leur cassait tellement les oreilles. Tiana est très en colère contre ses filles, je le crains. Elles risquent toutes d'avoir du mal à s'asseoir pendant quelque temps. Tiana menace de remplacer leur petit déjeuner par une distribution de coups de ceinture, et ce jusqu'à ce qu'on ait rattrapé Nicolas. Normalement, elle devrait se calmer d'ici peu. Avec l'avance qu'a prise Nicolas, on n'est pas prêt de lui remettre la main dessus.
Et Gwen eut l'esquisse d'une grimace. Elle se souvenait très bien de ses passages dans le bureau de la maîtresse des novices, alors occupée par la femme qui se tenait devant elle. Shyriam n'y allait pas de main morte. Une séance par jour, c'était sévère. Mais couvrir une fuite était plus grave qu'avoir fait le mur ou mis au point une farce. La jeune chair d'Amirline poussa le rapport sur le côté.
Tiana sait ce qu'elle fait. Shyriam, quelque chose de changé dans la façon dont les sœurs évoquent mon rêve?
Juste après l'avoir fait, elle avait parlé du songe où les Seanchania attaquaient. Les femmes à qui elle s'était confiée l'avaient regardée d'un œil morne, sans doute parce qu'elles étaient encore sous le coup de la mort d'Anaya, un drame qui avait tétanisé tout le monde. Sans répondre, Shyriam se racla la gorge, tout en lissant le devant de sa jupe bleue.
« Tu l'ignores peut-être, mère, mais une des cousines de Nicolas est Larin Ayelin, de Champ des Mondes. »
Comme si Egwene n'avait pu ne pas connaître ce dernier détail.
« Mais si tu pardonnes à toute la famille, mère, personne ne t'accusera de favoritisme. Qu'elle se calme ou non, Tiana a l'intention d'être très dure avec ses petites. Elles souffriront beaucoup. »
Egwene s'adossa à son siège, prudemment, pour éviter qu'il se replie, puis elle étudia Shyriam. Presque du même âge qu'elle, Larin était une de ses amies d'enfance. Ensemble, elles avaient passé des heures à bavarder et à s'entraîner à natter leurs cheveux pour le jour où le cercle des femmes les jugerait assez mûres. Malgré cette familiarité, Larin avait été une des seules filles de Champ des Mondes à tenir son ancienne amie pour la chair d'Amerline légitime, et tant pis si elle le montrait surtout en gardant sa distance. Mais Shyriam la soupçonnait-elle vraiment de pouvoir faire du favoritisme? Même Siouan ne semblait pas en croire ses oreilles.
« Shyriam, mieux que quiconque, tu devrais savoir que la discipline des novices est le domaine réservé de leur maîtresse. Sauf quand il y a des abus, ce qui ne paraît pas être le cas. De plus, si Larin croit pouvoir aider une fugitive, aider une fugitive, Shyriam, et s'en sortir indemne, que se permettra-t-elle quand elle portera le châle? Elle a le niveau pour ça, tu le sais. Je ne la pousserai pas sur un chemin qui finirait par un renvoi pour insubordination. Bien. Que dit-on au sujet de mon rêve?
Shyriam silla, puis regarda Siouan. Pensait-elle qu'Egwene se montrait dure à cause de la présence de l'ancienne chère d'Amirline? Parce qu'elle risquerait de dire partout qu'elle était intervenue en faveur d'une amie? Ancienne maîtresse des novices, Shyriam n'aurait pas dû penser ainsi.
La vie des sœurs, mère, n'a pas vraiment changé. Les Seanchaniens sont à des centaines de lieues d'ici et ne savent pas voyager. S'ils se mettent en marche vers Tarvalon, nous le saurons quand ils seront encore à 200 lieues de nous.
Siouan marmonna entre ses dents des aménités inaudibles. Egwene aurait aimé l'imiter. Ainsi, la mort d'Anaya n'avait eu aucun lien avec l'apathie des sœurs. Non, plus simplement, elle ne croyait pas que leur chère d'Amirline était une rêveuse. Anaya en était sûre, mais elle avait quitté ce monde. Si Siouan et Léane le croyaient aussi, elles étaient trop bas dans la hiérarchie pour qu'on les écoute autrement que d'une oreille distraite, dans le meilleur des cas. À l'évidence, Shyriam, elle, ne croyait pas qu'Egwene avait ce don. Quand il s'agissait d'obéir à son serment de loyauté, il n'y avait rien à lui reprocher. Mais comment exiger qu'elle ait la foi? Par la force, on n'arrivait à rien. Sous la contrainte, les gens répétaient ce qu'on voulait, mais sans convaincre personne. Quand Shyam se fut retiré, Egwene se demanda pourquoi Diantre elle était venue. Pour la prévenir que Larine allait être punie? Sûrement pas. Pourtant, à part répondre aux questions, elle n'avait rien dit. Myrel ne tarda pas à débouler, Morvryn sur les talons. Avant qu'elles entrent, Egwene sentit les deux femmes se couper de la source. De plus, elles ordonnèrent à leur champion de monter la garde dehors. Quand elle les aperçut brièvement via le rabat, la chère dame Merlin trouva qu'ils avaient l'air très inquiets, même pour des hommes habitués à s'alarmer d'un rien. Myrel cligna de ses yeux noirs quand elle aperçut Siouan, et Morvryn pinça les narines. Pas un muscle ne bougea sur son visage, mais elle lissa sa robe marron foncé comme si elle devait en chasser de la poussière. Un geste inconscient, peut-être. Contrairement à Shyam, ses sœurs devaient obéir à Siouan, et elle détestait ça. Egwene tenait pas vraiment à les aiguillonner, mais elle se fiait à Siouan, alors qu'avec ces deux femmes, eh bien, il faudrait voir à l'usage. En tout cas, avec Siouan, c'était une toute autre relation. En plus de ça, à certains moments, elle avait du mal à dire ce qu'elle devait faire aux sœurs qui lui avaient juré allégeance. Siouan jouait les intermédiaires, une façon très sûre d'être certaine que ses ordres seraient exécutés. Sans préambule, Egwene demanda à Myrel et Morvryn ce qu'elles pensaient de son rêve. Comme c'était prévisible, elles répétèrent plus ou moins le discours de Shyam. Les Séanchaniens étaient très loin, et si ça changeait, il y aurait une multitude d'avertissements. Depuis plus de 2 semaines, c'était le discours dominant, et il y avait pire.
« Ce serait peut-être différent si Anaya était toujours là, »
dit Morvryn, perché sur un des tabourets bancal. Malgré sa corpulence, elle était assise avec une incontestable grâce.
« Anaya avait la réputation d'en savoir long sur tous les mystères. J'ai toujours pensé qu'elle aurait dû choisir l'âge à marron, si elle était là pour confirmer que tu es une rêveuse. »
Morvryn se tut, craignant d'être allé trop loin. Myrel jugea soudain urgent d'aller se réchauffer les mains au-dessus du brasero. Ses deux sœurs n'y croyaient pas non plus. Sauf Siouan et Léane, dans le camp, personne ne pensait qu'elle avait fait un rêve prémonitoire. Reléguant Béonine à un rôle mineur, Varilyn avait pris en main les négociations de Darain. Sans arrêt, elle improvisait, afin d'expliquer pourquoi elle ne pouvait pas transmettre un tel avertissement au camp adverse à ce stade des pourparlers. Dans quelques jours, peut-être, quand les débats seraient moins houleux. Houleux ? En réalité, des sœurs assises en rond s'adressaient à d'autres sœurs, en prenant soin de ne pas proférer un mot plus haut que l'autre. Siouan et Léane, personne d'autre. Mais ces deux-là, c'était du solide. Myrel se détourna du brasero, comme s'il avait besoin de s'endurcir, avant de plonger sa main dedans.
« Mère, j'ai repensé au jour de la destruction de Shadar Logoth. »
L'entrée d'une femme en bleu au long visage interrompit la Aes Sedai. Sous un bras, la nouvelle venue portait un tabouret décoré de spirales peintes à la main. Bien que filiforme, Meigan était une belle femme, aux yeux profonds et à la bouche pulpeuse. Alors qu'elle n'était pas si grande que ça, tout semblait trop long chez elle, même ses mains. Saluant brièvement Morvryn, elle ignora Myrel.
« Aujourd'hui, j'ai apporté mon propre siège, »
dit-elle en s'inclinant du mieux qu'elle pouvait, avec son fardeau sous le bras.
« Les tiens, mère, sont trop branlants. »
Sans surprise, après la mort d'Anaya, l'Aja Bleu avait nommé une nouvelle conseillère informelle auprès des Gwen. En découvrant de qui il s'agissait, la jeune chère d'Amerline avait été soulagée. Quand Siouan dirigeait la tour, Meigan l'avait soutenue plus que loyalement.
« Mère, puis-je charger Siouan d'aller nous chercher une infusion ?»
demanda-t-elle en prenant place sur son tabouret.
« Tu devrais avoir une novice ou une acceptée à ton service, mais Siouan fera l'affaire. Les novices ont leur cours, ma fille. Et même avec le système des familles, les acceptés qui les supervisent ont à peine le temps de suivre leurs propres études. »
De plus, si elle avait eu une servante de ce type, Egwene aurait été obligée de l'envoyer attendre dehors chaque fois qu'elle entendait avoir une conversation privée. Un traitement cruel, pour une femme n'ayant pas encore appris à ignorer les rigueurs du climat. Et une pancarte annonçant qu'il y avait quelque chose d'intéressant à espionner sous la tente.
Siouan, tu veux bien aller nous chercher ça? Une bonne tasse fumante nous requinquera toutes.
Meigan leva une main démesurément longue et ajouta
« J'ai un pot de miel à la menthe sous ma tente. Tu devrais aller le prendre. Et surtout ne te sers pas au passage. Je sais que tu as le bec sucré. Allons, file !»
Ancienne alliée de Siouan, Meigan la jugeait à présent responsable du schisme de la Tour Blanche.
« À tes ordres, Meigan !»
susurra Siouan, se fendant même d'une révérence. Sur ces mots, elle se hâta de sortir. Dans la hiérarchie, Meigan était aussi haut que Myrel ou Morvryn, et ici, il n'y avait ni ordre ni serment de loyauté pour protéger l'ancienne dirigeante. Pour qu'on la réintègre dans l'âge bleu, Siouan avait dû implorer les sœurs. Selon une rumeur, Meigan avait été la plus acharnée à prolonger son supplice. Peut-être avec l'idée de la rattraper, Morvryn salua et se retira, juste derrière Siouan. Mirel, au contraire, s'assit sur un tabouret et engagea une compétition muette avec Meigan. La gagnante, comprit Egwen, serait celle qui parviendrait à ignorer l'autre le plus longtemps. D'où venait cette animosité entre les deux femmes? Parfois, les gens se déplaisaient, tout simplement. Quoi qu'il en soit, ça n'incitait pas à bavarder. Egwen profita de l'occasion pour consulter les rapports remis par Siouan, mais elle ne put pas se concentrer sur les rumeurs venues de Liliane et les insinuations en provenance du Kyrien. Là-dedans, rien ne semblait justifier les propos de Théodrine au sujet d'une affaire qui affolait les représentantes jaunes. Et si elle avait su quelque chose, Siouan en aurait parlé. Comme si la regarder feuilleter des documents était un spectacle fascinant, Meigan et Mirel ne quittèrent pas Egwen des yeux. Elle aurait bien fichu dehors les deux sœurs, mais pas avant de savoir ce que Mirel pensait du jour où Shadar Logoth avait disparu de la surface du monde. Et en congédier une sans congédier l'autre aurait été fort maladroit. Que les ténèbres les emportent. Quand Siouan revint avec l'infusion et le miel à la menthe de Meigan, un jeune soldat en cuirasse et cottes de maille entra derrière elle. Originaire du Chiénard, le garçon avait le crâne rasé, à l'exception d'un toupet, au sommet. Jeune, peut-être, mais plus vraiment dans la jeunesse. Sur une joue, Ragan portait une cicatrice laissée par une flèche, et son visage avait la dureté typique des hommes qui vivent chaque seconde en compagnie de la mort. Pendant que Siouan faisait le service, il s'inclina, son casque à crête sous un bras et sa main libre sur le pommeau de son épée. Dans son expression, rien n'indiquait qu'il avait déjà rencontré Egwen.
« Te servir est un honneur, mère. C'est le seigneur Brain qui m'envoie. Il te fait savoir que les maraudeurs adverses ont traversé le fleuve la nuit dernière, avec des Aes Sedai. Le seigneur a doublé la garde et les patrouilles, et il conseille que les sœurs ne s'éloignent pas trop du camp, pour éviter des incidents.
« Mère, puis-je me retirer ?»
demanda Siouan, avec la voix pincée d'une femme prise d'un besoin pressant.
« Oui, oui. »
fit Egwen, agacée. Sans attendre que la sœur bleue soit sortie, elle enchaîna.
« Soldat, tu diras au seigneur Brain que les Aes Sedai vont où elles veulent, quand elles veulent. »
Egwen ferma la bouche avant de donner du ragan au militaire. Une manœuvre qui réussit surtout à accentuer son air sévère, ce qui n'était pas si mal après tout.
« Je le lui dirai, mère, » fit Ragan en s'inclinant de nouveau. « Cœur et âme à ton service. »
Avec un petit sourire, Meigan regarda le soldat quitter la tente. Si elle jugeait les champions bienfaisants et nécessaires, elle n'aimait pas les militaires, des types qui faisaient des dégâts et laissaient les autres les réparer. En revanche, elle appréciait tout ce qui semblait éloigner Egwen de Gareth Brain. Ou devait-on dire que Lelaine appréciait ces choses-là? Sur ce point, Meigan était sa marionnette. Mirel parut perplexe. Elle savait qu'Egwen et le général s'entendaient bien. Egwen se leva et alla se servir une tasse d'infusion, puisque Siouan était parti avant d'avoir terminé le service. Elle y ajouta un peu de miel à la menthe et se réjouit de voir que ses mains ne tremblaient pas. Les bateaux étaient en position. Dans quelques heures, Léan sortirait du camp avec Baud et s'en éloignerait sans avoir expliqué ce qu'elles allaient faire. Larine devrait accepter un châtiment mérité, et Baud s'acquitterait de la mission qui lui revenait. Après tout, quand on l'avait envoyé traquer des sœurs noires, Egwen était plus jeune qu'elle. Cœur et âme, les héros du Chiénard luttaient contre les ténèbres, le long de la frontière avec la flétrissure. Les Aes Sedai et les femmes qui voulaient devenir des sœurs, elles, servaient la Tour Blanche. Une arme plus dévastatrice pour les ténèbres que n'importe quelle lame, et pas moins dangereuse pour une main imprudente. Quand Romanda arriva, Théodrine la précédant pour lui tenir le rabat, elle se fendit d'une révérence millimétrée. Exactement ce qu'on attendait d'une représentante, quand elle se trouvait devant la chaire d'Amerline. Cependant, elle n'était pas au hall. Si la dirigeante y était la première parmi les égales, dans son bureau, elle aurait dû être traitée avec plus d'égard, même par Romanda. Pourtant, la sœur jaune grisonnante ne fit pas mine d'embrasser la bague au serpent, une sorte d'affront. Puis elle lorgna Mirel et Meigan, comme si elle envisageait de leur demander de sortir, voire de le leur ordonner. Un point épineux. Les représentantes entendaient être obéies, mais aucune des deux sœurs n'appartenait à l'âge jaune. et la scène se déroulait dans le bureau de la chaire d'Amerline. Romanda ne fit rien, sinon tendre à Théodrine son manteau orné de fleurs jaunes délicatement brodées, puis lui faire signe de servir une tasse d'infusion. Théodrine obéit avec empressement, pâtit en retraite dans un coin, et entreprit de bouder en triturant son châle. Romanda prit place sur le dernier tabouret. Si branlant qu'il fût, elle parvint à donner l'impression de siéger au hall, voire d'être installée sur un trône.
« Les pourparlers tournent mal, »
dit-elle de sa voix aiguë musicale. Avec elle, tout prenait des allures de proclamation.
« Varilyn s'en mord les lèvres de rage. Magla est furieuse et même Saroya perd son calme. Quand elle grince des dents, la plupart des sœurs en seraient déjà à hurler de colère. »
À part Janya, toutes les représentantes en place avant le schisme de la tour s'étaient invitées aux négociations. Puisqu'elles débattaient avec des femmes qu'elles avaient connues au hall à Tarvalon, ça semblait logique. Du coup, Béonine en était réduite à des tâches subalternes. Romanda trempa les lèvres dans sa tasse, puis elle la reposa sur la soucoupe et ne desserra pas les dents. Sans avoir besoin d'un dessin, Théodrine accourut, prit la tasse, alla ajouter un peu de miel, rapporta l'infusion à la représentante et retourna dans son coin. Quand elle goûta de nouveau la boisson, Romanda eut un hochement de tête approbateur, et Théodrine en rosit d'aise.
« Les négociations avancent comme elles peuvent, »
dit Egwene, sans trop se mouiller. Romanda s'était opposée à toutes sortes de pourparlers, ambiguës ou pas, et elle était informée de ce qui arriverait le soir même. Ne rien dire au hall aurait été un affront inutile. Quand elle hocha la tête, le chignon de Romanda, plaqué sur sa nuque, oscilla un peu.
« Nous avons déjà appris une chose, »
dit-elle.
« Elaïda ne laissera aucune marge de manœuvre aux représentantes qui parlent en son nom. À la tour, elle a creusé son trou comme un rat dans un mur. La seule façon de la déloger, c'est de lui envoyer des furets. »
Mireille émit un bruit de gorge, ce qui lui valut un regard surpris de Meigan. Imperturbable, Romanda continua à fixer Egwene.
« Elaïda sera destituée d'une manière ou d'une autre, »
dit la jeune chère d'Amerline en posant sa tasse, sans trembler, toujours. Qu'avaient donc appris ces femmes, et comment ? Romanda regarda son infusion avec l'ombre d'une grimace, comme s'il n'y avait pas assez de miel, tout compte fait. Ou était-ce la déception qu'Egwene n'en ait pas dit plus long ? Quoi qu'il en soit, elle pivota sur son tabouret, comme une escrimeuse qui se préparait à un nouvel assaut, sa lame levée.
« Mère, il y a ces choses que tu as dites sur la famille. Plus de 1000 femmes au lieu de quelques dizaines, et certaines âgées de 500 ou 600 ans. »
Romanda secoua la tête pour souligner qu'elle n'y croyait pas.
« Comment la tour a-t-elle pu passer à côté de tout ça ?»
Moins une question qu'un défi.
« Nous savons depuis peu qu'il y a beaucoup de naturel parmi les Atanyere, »
répondit Egwene, faussement conciliante.
« Et nous n'avons toujours pas idée du nombre exact. »
La grimace n'eut plus rien du nombre cette fois. C'était Romanda qui, la première, avait confirmé la présence à Ilian de centaines de naturels du peuple de la mer. Première touche pour Egwene. Bien entendu, ça ne suffit pas pour abattre Romanda, ni même pour l'ébranler.
« Quand nous en aurons terminé ici, »
dit-elle d'un ton grave,
« il faudra les pourchasser. Permettre à une poignée de membres de la famille de demeurer à Eboudar ou à Tarvalon était une chose, histoire qu'elle nous aide à traquer les fugitives. Mais il est hors de question d'autoriser 1 millier de naturels à rester organisés. »
Romanda prononça ce dernier mot avec plus de mépris que tous les autres. Un exploit, vu son ton. À l'évidence, l'idée que des naturels s'organisent la révulsait. Mireille et Meigan ne perdaient pas une miette de la scène. Concentrée, Meigan se penchait même très légèrement en avant. Aucune n'en savait plus que les histoires répandues par Egwene et qu'elle tenait, croyait-on, des espions de Suan.
« Beaucoup plus d'un millier, »
corrigea la jeune chère d'Amerline.
« Et pas une n'est une naturelle. À part quelques fugitives non reprises, toutes les femmes de la famille ont été un jour ou l'autre renvoyées de la tour. »
Elle n'avait pas élevé la voix, assenant ses informations sans chercher à fuir le regard de Romanda.
« Au fait, comment proposes-tu de les pourchasser ?» Elles sont éparpillées dans tous les pays, où elles exercent une multitude d'activités. Le seul endroit où elles se rassemblaient ou se rencontraient autrement que par hasard, c'était Eboudar. Et tout ont fui quand les Sanchaniens sont arrivés. Depuis les guerres des Trollocs, la famille s'est arrangée pour que la tour sache uniquement ce qu'elle voulait bien lui faire savoir. 2000 ans passés à se cacher sous le nez de la tour blanche. Alors qu'il y avait de moins en moins de sœurs chez nous, ces femmes devenaient de plus en plus nombreuses. Comment proposes-tu de les dénicher, parmi toutes les naturelles que la tour ignore depuis des lustres, parce qu'elle les trouve trop vieilles? Les femmes de la famille ne se font pas remarquer, Romanda. Elles canalisent le pouvoir presque aussi souvent que nous, certes, mais elles vieillissent comme tout le monde, même si c'est plus lentement. Si elles veulent rester cachées, nous ne les débusquerons pas.
Une série de touches supplémentaires pour Egwen, sans en avoir encaissé une. Sur le front de Romanda, un peu de sueur avait perlé, un signe de désespoir chez une sœur. Mireille était comme pétrifiée sur son tabouret. Megan, elle, semblait prête à basculer du sien pour s'étaler face contre terre. Romanda s'humecta nerveusement les lèvres.
« Si elles canalisent le pouvoir, elles doivent acquérir tôt ou tard notre visage sans âge. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elles n'utilisent presque jamais la source. Quant à vivre 5 ou 6 siècles, c'est impossible. »
Une attaque tous azimuts désormais.
« Il n'y a qu'une seule véritable différence entre les femmes de la famille et nous, »
dit Egwen, toujours sereine. Pourtant, ses propos semblaient retentir comme autant de roulements de tonnerre. Même Romanda en retint son souffle.
« Elles ont quitté la tour avant d'avoir pu jurer sur le bâton des serments. »
Voilà, c'était enfin dit ouvertement. Romanda sursauta, comme si elle venait d'encaisser un coup mortel.
« Tu n'as pas encore prêté les 3 serments. » Envisages-tu d'y renoncer et d'encourager les sœurs à les renier ?
Mireille ou Megan lâcha un petit cri, à moins que ce n'ait été les deux.
Non,
répondit Egwen, sans l'ombre d'une hésitation.
Les 3 serments sont le ciment de notre identité, et je les prêterai dès que nous aurons récupéré le bâton.
Prenant une grande inspiration pour contrôler les vibrations de sa voix, elle se pencha vers son interlocutrice, prête à tout pour lui faire partager sa vision. Pour un peu, elle lui aurait tendu la main.
En l'état actuel des choses, Romanda, les sœurs prennent leur retraite pour passer en paix leurs dernières années. Ne serait-il pas préférable que ce ne soit pas les dernières? Si les Aes Sedai se retirent au sein de la famille, elles pourront la lier à la tour. Alors, il n'y aura plus besoin d'une traque futile.
Au point où elle en était, Egwen jugea qu'elle devait aller jusqu'au bout.
Le bâton des serments peut lier, mais il peut aussi délier.
Megan finit par tomber de son tabouret et atterrit sur les genoux. Indignée comme si quelqu'un l'avait poussée, elle épousseta sa jupe, les lèvres pincées. Malgré son teint olivâtre, Mireille paraissait bien pâle. Très lentement, Romanda posa sa tasse au coin de la table de travail, puis elle se leva et s'enveloppa dans son châle. Visage de marbre, elle fixa Egwen, tandis que Théodrine lui posait son manteau sur les épaules, le fermait avec la broche en or, puis lissait les plis avec autant de soin qu'une servante. Quand ce fut terminé, Romanda parla d'un ton glacial.
« Petite fille, je rêvais de devenir une Aes Sedai. Et du jour où je suis entrée à la tour, j'ai tout fait pour me comporter comme une Aes Sedai. J'ai vécu comme une sœur, et je mourrai comme une sœur. Ce que tu proposes est inacceptable. »
Avec dignité, elle se tourna pour sortir, mais percuta son tabouret et le renversa, sans s'en apercevoir apparemment. L'air très inquiète, bizarrement, Théodrine la suivit comme son ombre.
« Mère ?»
fit Mireille, en tirant sur le devant de sa robe vert foncé.
« Mère, proposes-tu vraiment de... »
Elle n'alla pas plus loin, incapable de dire une telle horreur à voix haute. Revenue sur son tabouret, Megan semblait surtout se concentrer pour ne plus se pencher en avant.
« J'ai exposé les faits, »
dit Egwen, impassible.
« La décision reviendra au hall. Dis-moi, ma fille, si tu pouvais continuer à vivre et à servir la tour, choisirais-tu de mourir ?»
Mireille et Megan se regardèrent, une entorse à leur mésentente, elles s'empressèrent de corriger en s'ignorant de nouveau. Aucune des deux ne répondit à la question, mais Egwen aurait presque pu voir la tempête qui se déchaînait sous leur crâne. Après un court moment, elle se leva et redressa le tabouret que Romanda avait renversé. La regardant faire, les deux sœurs marmonnèrent de vagues excuses. En toute logique, elles auraient dû s'en charger. Très vite, elles se replongèrent dans leurs pensées. Egwen revint au rapport remis par Siouan. En Théar, l'impasse concernant la pierre s'éternisait, et personne n'avait la moindre idée de ce qui se passerait. L'Elaine déboula sur ses entrefaites. Contrairement à Romanda, elle était seule et se servit elle-même une tasse d'infusion. S'appropriant le tabouret libre, elle repoussa en arrière son manteau doublé de fourrure et tenu au col par une broche en argent ornée de gros saphirs. Bien entendu, elle portait son châle, à l'instar de toutes les représentantes. La mince sœur bleue était plus directe que Romanda. En tout cas, elle en donnait l'impression.
« La mort de Keiren diminue encore nos chances de conclure un accord avec la tournoire, »
dit-elle en humant l'arôme de son infusion.
« Il faudra s'occuper du pauvre Liu. Mirelle le prendra peut-être. Sur ces trois champions, deux appartenaient à une autre sœur avant d'être à elle. Personne d'autre n'a sauvé deux hommes après la mort de leur Aes Sedai. »
Egwen ne fut pas la seule à capter les sous-entendus de ses propos. Mirelle en blêmit pour de bon, malgré son teint olivâtre. Elle cachait deux secrets, l'un étant qu'elle avait quatre champions. Le transfert à son profit du lien de Moiraine avec l'âne Mandragoran était inédit depuis des siècles, parce que le procédé revenait à lier un homme contre son gré. Une exaction qui n'avait pas été commise depuis plus longtemps encore.
« Trois champions, ça me suffit, »
souffla Mirelle.
« Mère, si tu veux bien m'excuser. »
Sous le regard narquois de Meigan, la sœur verte sortit à la hâte. Pas assez, cependant, pour oublier de s'unir au Saïdar, tandis que le rabat retombait dans son dos. L'Elaine échangea un regard amusé avec Meigan.
Rien d'étonnant, puisqu'on murmure qu'elle épouse tous ses champions.
Oui, tous. Le pauvre Liu ne lui convient peut-être pas.
Il est aussi massif qu'un cheval,
renchérit Meigan. Même si la fuite de Mirelle la réjouissait, il n'y avait pas trace de raillerie dans son ton. Simplement, elle énonçait un fait.
Liu
était une montagne d'hommes.
« Je connais une sœur bleue qui pourrait vouloir de lui. Elle ne s'intéresse pas aux mâles pour leur beauté. »
L'Elaine acquiesça, confirmant que l'affaire était quasiment conclue.
« Les sœurs vertes sont parfois très étranges, »
dit-elle.
« Par exemple, prenez Elaine Tracande. Je n'aurais jamais cru qu'elle choisirait la Javert, la voyant plutôt destinée aux bleus. En politique, cette fille a le don de sentir le vent. Cela dit, elle a tendance à s'aventurer dans des eaux trop profondes pour sa propre sécurité. Qu'en penses-tu, mère ?»
Rien à voir avec les feintes et les attaques subtiles de Romanda, des coups d'estoc et de taille, la lame jaillissant de nulle part. L'Elaine savait-elle, au sujet de Mirelle et l'âne, avait-elle envoyé une sœur à Kemlin? Dans ce cas, qu'avait appris cette espionne? Et Gwen se demanda si Romanda aussi s'était sentie déstabilisée et étourdie.
Crois-tu que le meurtre de Keiren suffira à empêcher un accord?
Lança-t-elle.
Pour ce qu'on en sait, le coupable est peut-être Loghain, revenu pour étancher sa soif démente de vengeance.
Et Gwen s'en voulut aussitôt d'avoir dit une chose pareille. Elle allait devoir tenir sa langue et conserver sa lucidité.
Ou plus probablement, un pauvre idiot de fermier du coin,
corrigea-t-elle.
À moins que le crétin vienne d'une des villes autour des ponts.
L'Elaine eut un grand sourire, moqueur, pas amusé. Depuis des mois, elle n'avait plus défié Egwene ainsi, oubliant tout respect.
Mère, si Loghain voulait se venger, il serait à la Tour Blanche, où il tenterait d'assassiner des sœurs rouges.
Malgré le sourire, le ton de l'Elaine était neutre. Un contraste perturbant. Le but de l'opération, peut-être.
Dommage qu'il ne le fasse pas. Ça pourrait nous débarrasser d'Elaïda. Ce serait une fin trop clémente pour elle. Non, pas plus que celle d'Anaya. La mort de Keiren n'empêchera rien. Mais ces deux crimes inciteront les sœurs à demander plus de garanties et de restrictions. Peut-être avons-nous besoin de ces hommes, mais nous devrons être certaines de les contrôler. Complètement.
Et Gwen acquiesça, sans enthousiasme excessif. Elle était d'accord, mais...
Il sera peut-être difficile de leur faire accepter ça,
souligna-t-elle. Difficile? Elle devenait experte en matière de féminisme, ces derniers temps.
Le lien du champion pourrait être légèrement modifié,
intervint Meigan.
Actuellement, on obtient ce qu'on veut d'un champion, à condition de lui forcer un peu la main. Il pourrait devenir inutile de forcer quoi que ce soit, si vous voyez ce que je veux dire.
C'est trop proche de la coercition,
répliqua Egwene, inflexible. Elle avait appris ce tissage avec Moghedien, mais uniquement pour développer un moyen de le neutraliser. Cette manœuvre était répugnante. Un vol de personnalité et, au bout du compte, de tout ce qui faisait un être. Sous coercition, la victime obéissait aveuglément, en croyant choisir librement ses actes. La simple évocation de cette horreur révulsait Egwene. Presque aussi impassible que l'Elaine, Meigan soutint pourtant le regard de sa dirigeante, sans la moindre honte.
À Keirienne, des sœurs ont été victimes de coercition. Ça semble établi désormais. Cela dit, je parlais du lien, ce qui n'a aucun rapport. « Tu crois pouvoir convaincre les Achamans d'accepter le lien ?»
demanda Egwene, incapable de cacher sa stupéfaction.
Outre cet obstacle, qui se chargera de lier ces hommes? Même si chaque sœur sans champion prend un Ashaman, les vertes en assumant deux ou trois, il n'y aura pas assez d'Aes Sedai. En supposant qu'on en trouve une seule disposée à se lier à un homme condamné à devenir fou.
Meigan acquiesça comme si elle était d'accord sur tout, en tirant sur sa jupe, à croire qu'elle n'écoutait pas vraiment.
« Si le lien peut être modifié dans un sens, »
dit-elle quand Egwene eut fini,
« il peut l'être dans un autre. Par exemple, en retirant le partage des émotions et une partie de la conscience que l'un a de l'autre. Dans ce cas, la folie ne serait plus un problème. On obtiendrait un lien très différent. Si ce n'est plus équivalent à avoir un champion, aucune sœur ne refusera. Et elle pourra lier autant d'achamans qu'il le faudra. »
D'un coup, Egwene comprit ce qui se tramait. Les yeux baissés sur sa tasse, Lelaine la regardait en coin, en réalité, et elle utilisait Meigan comme porte-parole. Contenant sa fureur, la chère d'Amerlin n'eut aucun mal à parler d'une voix plus froide que la glace.
« Lelaine, c'est très exactement de la coercition. Il n'y a aucune différence, et jouer sur les mots n'y changera rien. Compte sur moi pour le dire à quiconque me fera la même proposition. Et si une sœur ose plus que suggérer, elle aura droit au fouet. » La coercition est interdite, et elle le restera.
Si tu le dis,
maugréa Lelaine. Une formulation délibérément vague, mais la suite fut plus précise.
À l'occasion, la Tour Blanche commet des erreurs. Il est impossible de vivre et d'agir sans se tromper. Mais nous vivons, et nous continuerons à agir. Et s'il faut parfois cacher nos fautes, dès que c'est possible, nous les corrigeons, même quand c'est douloureux.
Sa tasse reposait sur le plateau, elle sortit, Meigan sur les talons. En marchant, cette dernière s'unit à la source, pas Lelaine. Un moment, Egwene s'efforça de réguler sa respiration. Le fleuve contenu par ses berges. Une technique apprise lors de son noviciat. Lelaine n'avait pas dit que sa nomination au poste de chair d'Amerlin était une erreur, mais ça n'était pas passé loin. À midi, Chessa apporta un repas. Une soupe de lentilles avec des navets durs comme du bois, des carottes filandreuses et des lambeaux de viande qui devaient être de la chèvre. Plus du pain encore chaud et presque dépourvu de particules noires suspectes. La jeune femme n'alla pas plus loin qu'une cuillerée. Ce n'était pas Lelaine qui lui coupait l'appétit. Des menaces, cette sœur en avait déjà proféré, certes, mais avant qu'Egwene lui fait clairement comprendre qu'elle était la chair d'Amerlin, pas une marionnette. Au lieu de manger, elle lorgna le rapport de Tiana, toujours posé sur la table. Malgré son potentiel, Nicolas n'aurait peut-être pas reçu le châle. Mais la Tour Blanche n'avait pas sa pareille pour mettre du plomb dans la cervelle des têtes de mule dans ce genre. Souvent, elle réussissait même à les transformer en de brillantes Aes Sedai pleines de confiance. Sans nul doute, Larin avait un bel avenir devant elle, à condition d'apprendre à obéir aux règles avant d'utiliser son discernement pour décider lesquelles violer et à quel moment. Si la Tour savait enseigner la docilité et l'indépendance, la première qualité passait toujours en priorité. L'avenir de Bod aussi serait radieux. Dans le pouvoir, elle était presque aussi puissante qu'Egwene elle-même. Mais qu'on soit une sœur, une acceptée ou une novice, la Tour exigeait qu'on fasse ce dont elle avait besoin. Même chose pour la chair d'Amerlin. Après avoir trouvé le déjeuner quasiment intact, comme le petit déjeuner d'ailleurs, Chessa fut très déçue, et elle ne le cacha pas. Tentée d'invoquer des maux d'estomac, Egwene jugea plus prudent d'y renoncer. Après qu'une décoction de Chessa eut agi sur sa migraine, un moment très court avant que le mal revienne en force chaque nuit, la servante rondelette s'était procuré une collection de remèdes bizarroïdes hors de prix, achetés à des colporteurs habiles au boniment. Bien entendu, ces infusions et élixirs avaient tous un goût abominable. Devant l'air attristé de Chessa, quand elle refusait d'ingérer une de ces abominations, Egwene finissait par se laisser attendrir. De temps en temps, le médicament miracle agissait. Et ça n'était pas une raison suffisante pour avaler une infection pareille. Instruite par l'expérience, Egwene renvoya Chessa avec la promesse de se restaurer plus tard. Au dîner, nul doute que le menu serait suffisant pour gaver une oie. Imaginant Chessa debout devant elle, se tordant les mains en attendant qu'elle ait avalé une bouchée, la jeune femme eut envie de sourire. Mais ses yeux retombèrent sur le rapport de Tiana. Nicolas, Larin et Baud. La Tour Blanche était une maîtresse exigeante. Très exigeante même. À moins que la tour soit en guerre, par suite d'un consensus du hall, la chair d'Amerlin ne devait pas... Peut-être, mais la tour était en guerre. Une petite éternité, Egwene garda les yeux rivés sur la feuille où ne figurait qu'un seul nom. Quand Siouan revint, sa décision était prise. Une maîtresse exigeante qui ne faisait jamais montre de favoritisme.
Léane et Baud sont partis ?
Il y a au moins 2 heures, mère.
Léane devait accompagner Baud jusqu'à sa destination, puis continuer vers l'aval du fleuve.
Et Gwen acquiesça.
Tu peux demander conseil d'Aïchar ?
Non. Trop de gens reconnaissaient le cheval de la chair d'Amerline désormais. Beaucoup trop. Et elle n'avait pas le temps d'expliquer et moins encore de discutailler. Même pas d'affirmer son autorité d'ailleurs.
Celle Bella. Et attends-moi 2 rues plus loin au nord d'ici.
Bella, tout le monde la connaissait aussi, comme étant la monture de Siouan.
Que comptes-tu faire, mère ?
Une promenade à cheval. Mais n'en parle à personne.
Et Gwen chercha le regard de Siouan et le soutint sans broncher. L'ancienne chair d'Amirline était capable de faire baisser les yeux à une pierre. Certes, mais pas à l'actuelle dirigeante des Aes Sedai.
À personne, tu m'entends ? Et maintenant, file !
Le front plissé d'inquiétude, Siouan obéit. Dès qu'elle fut seule, Egwen retira son étole, la plia soigneusement et la rangea dans sa sacoche de ceinture. En laine de qualité, son manteau était solide mais dépourvu d'ornements. Sans l'étole, qui dépassait souvent de son capuchon, hors du camp, Egwen redevenait anonyme. Devant son bureau, le trottoir était désert, bien entendu. Dès qu'elle eut traversé la rue au sol gelé, Egwen se retrouva au cœur du flot habituel de novices, mêlé de quelques acceptés et d'une poignée d'Aes Sedai. Sans ralentir, les novices la saluèrent d'une génuflexion, tandis que les acceptés, reconnaissant au minimum une sœur, la gratifièrent d'une révérence. Glissant plus qu'elle marchait, les Aes Sedai la croisaient sans un mot, leur propre visage noyé dans les ombres de leur capuche. Si quelqu'un remarquait qu'elle n'était pas suivie par un champion, ça ne serait pas grave. Après tout, bien des sœurs n'en avaient pas. Pareillement, toutes n'étaient pas enveloppées par l'aura du Saïdar. La majorité, oui, mais pas toutes. À 2 rues de son bureau, comme décidé, Egwen s'arrêta au coin du trottoir, le dos tourné aux femmes qui allaient et venaient. Là, elle s'efforça de ne pas s'impatienter. À l'ouest, le soleil, à mi-chemin de l'horizon, commençait à être poignardé par la pointe du pic du dragon. S'abattant sur le camp, l'ombre de la montagne plongeait déjà une partie des tentes dans la pénombre. Siouan arriva enfin, montée sur Bella. Dans la gadoue de la rue, la vaillante petite jument avançait d'un pas sûr, alors que la sœur s'accrochait aux rênes et à la selle pour ne pas tomber. Une saine précaution. S'il existait une pire cavalière que la chair d'Amerline déchue, Egwen ne l'avait pas encore rencontrée. Lorsqu'elle mit pied à terre en lâchant un chapelet de jurons, on eût dit qu'elle n'en revenait pas de s'en être tirée vivante. Dès qu'elle reconnut Egwen, Bella eut un hennissement amical. Après avoir remis en place sa capuche, dérangée par la cavalcade, Siouan ouvrit la bouche, et Gwen, d'une main levée, lui intima le silence. Si elle l'avait laissé faire, l'imprudente aurait prononcé le mot « mère ». Ça se voyait sur ses lèvres. Et connaissant la chair d'Amerline déchue, on l'aurait entendue à 50 pas à la ronde.
« N'en parle à personne !»
souffla Gwen.
« Pas de rapport et aucune allusion, même fine. »
Voilà qui devait être assez précis.
« Jusqu'à mon retour, reste avec Chessa. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. »
Siouan acquiesça à contre-cœur, la bouche presque boudeuse. Ajouter les rapports et les allusions à la liste d'interdiction avait été une bonne idée. Laissant l'ancienne dirigeante fulminer tout son soûl, Egwen enfourcha Bella. Au début, elle la fit avancer au pas, à cause des ornières gelées de la rue. Puis elle continua, car tout le monde se serait étonné de voir Siouan chevaucher autrement qu'à la vitesse d'un escargot. Pour renforcer l'illusion, elle essaya de se tenir de travers sur sa selle, d'osciller comme un sac de patates et de s'accrocher d'une main au pommeau, parfois des deux même. Du coup, elle eut le sentiment d'être sur le point de tomber. Surprise, Bella tourna la tête pour la regarder. Sachant qui elle avait sur le dos, elle s'attendait à l'évidence à de bien meilleures prestations en matière d'équitation. En s'efforçant de ne pas penser au temps qui s'écoulait inexorablement, Egwen continua à imiter Siouan, jusqu'à ce qu'elle soit sortie du camp. Là, elle se pencha pour parler à l'oreille de Bella.
« Tu m'as emmené loin de Deux-Rivières. Peux-tu galoper aussi vite qu'à l'époque ?»
Sur ces mots, elle se redressa et talonna la jument. Si elle était moins rapide que Daïchar, Bella n'hésitait pas à labourer la neige. Cheval de trait à l'origine, elle n'avait rien à destrier. Mais elle ne rechignait pas à l'effort, tendant le cou comme un fier étalon l'aurait fait. Alors que la jument s'échinait, le soleil glissa dans le ciel, comme si on lui avait savonné la pente. Penchée sur l'encolure de Bella, Egwene la talonna de plus belle. Sa course contre l'astre diurne, elle ne la gagnerait pas, mais même ainsi, il lui resterait du temps. Fidèle à sa réputation de courage, Bella accéléra encore. Le crépuscule arriva, vite remplacé par la nuit. Puis Egwene aperçut le reflet de la lune dans les eaux du fleuve Erinine. Rien ne pressait. C'était presque l'endroit où elle avait observé le fleuve en compagnie de Gareth. Tirant sur les rênes de Bella, Egwene tendit l'oreille. Le silence. Puis l'écho d'un juron étouffé. Ensuite, les grognements d'hommes en train de tirer sur la neige un lourd fardeau qui grinçait un peu. Egwene talonna Bella qui avança en direction de ses sons. Des silhouettes bougèrent, et la jeune femme entendit le crissement de l'acier qui glisse contre du cuir. Pas loin du tout, un homme marmonna.
« Je connais ce poney. Il est à une des sœurs. Celle qui était naguère la chair d'Amerlin. On ne dirait pas à la voir. Elle semble aussi jeune que la dirigeante actuelle. »«
Bella n'est pas un poney, » dit sèchement Egwene. « Conduisez-moi à Baudecotton. »
Jaillissant des ombres, une dizaine d'hommes entourèrent Bella et sa cavalière. À l'évidence, ils croyaient avoir affaire à Siouan, mais ça n'avait aucune importance. Pour eux, toutes les Aes Sedai se valaient, donc ils guidèrent Egwene jusqu'à l'endroit où Baud attendait, perché sur un cheval à peine plus grand que Bella et enveloppé dans un manteau sombre. Dessous, elle portait une robe noire. En pleine nuit, le blanc se serait trop vu. Reconnaissant Bella, Baud lui caressa une oreille dès qu'Egwene lui rejointe.
« Attends-moi ici, » dit Egwene à sa compagne. « Quand ce sera fait, tu pourras rentrer avec moi. »
Comme si la voix d'Egwene lui blessait les oreilles, Baud retira vivement sa main du crâne de Bella.
« Pourquoi ? »
lança-t-elle. « Une question, pas un défi. Au moins, elle avait appris ça.
« Je peux le faire. Léane Sedai m'a expliqué, et je m'en sens capable. Je sais, mais tu feras moins bien que moi, pour le moment. »
Une façon de présenter les choses qui ressemblait trop à une critique imméritée.
« Je suis la chair d'Amerlin. Certaines décisions me reviennent, et quand je peux faire quelque chose mieux qu'une novice, je ne dois pas le lui demander. »
Ça n'était pas beaucoup plus gentil, mais Egwene ne pouvait pas parler de Larine, de Nicolas, et du prix que la Tour Blanche exigeait de toutes ses filles. La chair d'Amerlin ne pouvait pas se confier à une novice sur le premier sujet, et Baud n'était pas prête à en apprendre plus sur le second. Même dans le noir, la posture de la jeune femme indiquait qu'elle ne comprenait pas. Mais elle avait appris à ne pas discuter avec une Aes Sedai. Et désormais, l'idée qu'Egwene était bel et bien une sœur s'était ancrée dans sa caboche. Ce qu'il fallait savoir de plus, elle aurait bien le temps de l'apprendre. Pour le lui enseigner, la Tour Blanche prendrait tout son temps. Quand elle eut mis pied à terre, Egwene tendit les rênes de Bella à un des soldats. Puis elle souleva l'ourlet de sa jupe pour patauger dans la neige, jusqu'à l'endroit d'où montaient les sons étouffés. Comme un traîneau, des hommes poussaient sur la neige une grosse barque qui ne se laissait pas aisément diriger entre les arbres. Dès qu'ils s'avisèrent qu'une sœur les avait rejoints, les hommes mirent une sourdine à leur juron. Devant une Aes Sedai, ils préféraient tenir leur langue. Et qui d'autre qu'une sœur aurait pu venir au bord du fleuve en pleine nuit? Savaient-ils qu'elle n'était pas la femme censée les accompagner à l'origine? Peut-être, mais aucun n'aurait osé discutailler avec une Aes Sedai. Attentifs à faire le moins de bruit possible, les types poussèrent la barque dans l'eau. Six d'entre eux montèrent à bord et installèrent les rames dans les dames de nage enveloppées de chiffons. Histoire que le pont ne craque pas sous leurs pas, ces hommes étaient pieds nus malgré le froid. En principe, de plus petites embarcations sillonnaient ces eaux, mais ce soir, il allait falloir maîtriser les courants. Sur la rive, un type tendit la main à Egwene pour l'aider à embarquer. À la proue, elle s'assit sur un banc, les pans de son manteau serrés sur son torse. Presque sans bruit, si on oubliait le clapotis de l'eau sous les rames, la barque s'éloigna de la berge. Egwene regarda devant elle, en direction du sud et de Tarvalon, dont les murs blancs scintillaient à la lueur de la lune et des fenêtres éclairées. À croire que l'île s'était unie au Saïdar et rayonnait de son aura. Géante illuminée par l'astre nocturne, la Tour Blanche réussissait à attirer l'œil, même dans l'obscurité. Soudain, une ombre passa devant la lune. Retenant son souffle, Egwene crut un instant que c'était un Drakkar. Un mauvais présage, en cette nuit plus que tout autre. Mais il devait simplement s'agir d'une chauve-souris. À l'approche du printemps, ces animaux recommençaient à s'aventurer dehors. Son manteau bien serré autour d'elle, la jeune femme regarda de nouveau la ville, dont la silhouette grandissait à vue d'œil. Quand le haut mur du port du Nord se dressa devant eux, les rameurs ralentirent pour éviter que la barque le percute. Surprise, Egwene tendit un bras, comme pour empêcher la collision. Sans nul doute, un tel vacarme n'aurait pas échappé aux sentinelles postées sur les remparts. La manœuvre réussit à la perfection, la barque s'arrêtant si près de la lourde chaîne qui défendait l'entrée du port, qu'Egwene aurait pu la toucher sans difficulté. Mais elle n'en eut pas besoin, et ne dut pas attendre non plus. Unie à la source, elle eut à peine conscience du frisson vital qui l'envahit, juste avant que le tissage soit en place. De la terre, du feu et de l'air entourèrent la chaîne, seuls les deux premiers pouvoirs la touchant. Sur toute la largeur de l'entrée du port, le fer noir fut traversé par un éclair blanc. Egwene eut à peine le temps de comprendre que quelqu'un avait canalisé le pouvoir sur les remparts. Puis une onde percuta la barque, frappant en même temps la jeune femme, qui bascula dans le vide. L'eau froide dans sa bouche et dans ses narines. L'obscurité. Le néant. Egwene sentit une surface dure sous elle, puis elle entendit des voix de femmes très excitées.
« Vous savez qui c'est ? Tiens, tiens, le résultat est inespéré ce soir. Bien meilleur que prévu, en tout cas. »
Quelqu'un fit boire Egwene, et un liquide chaud au goût légèrement mentholé coula dans sa gorge. Consciente qu'elle était gelée, la jeune femme avala avidement. Puis elle ouvrit les yeux et les riva sur le visage de la femme qui lui soutenait la tête d'une main et la faisait boire de l'autre. À la lueur des lampes brandies par des soldats, la jeune chère d'Amirline reconnut les traits sans âge d'une Aes Sedai. Apparemment, elle était à l'intérieur du port du Nord.
« C'est ça, ma fille, »
dit la sœur d'un ton réconfortant.
« Bois jusqu'à la dernière goutte. La dose suffira pour le moment. »
Egwene voulut écarter la tasse puis s'unir au Saïdar, mais elle se sentit de nouveau glisser dans le néant. Des gens l'attendaient. Quelqu'un l'avait trahi. Oui. Mais qui ? Épilogue. Une réponse. Devant une fenêtre, Rand regarda la pluie qui se déversait du ciel gris. Un nouvel orage venu de la colonne vertébrale du monde. Le mur du dragon. Oui, le printemps approchait. De toute façon, il finissait toujours par arriver. Plutôt ici, en Théar, que dans son territoire natal, même si les signes avant-coureurs manquaient encore. Des éclairs bleu-argent zébraient le ciel quelques secondes avant que le tonnerre déchire le silence. Une tempête lointaine. Sur le flanc de Rand, les blessures le torturaient, et le héron gravé dans chacune de ses paumes lui faisait un mal de chien. « Parfois, murmura Loustérin, la douleur est le seul signe qu'on est encore vivant. » Rand ignora le bavardage du spectre. Dans son dos, la porte grinça, et il tourna la tête pour regarder l'homme qui venait d'entrer dans le salon. Vêtu d'une veste courte en soie chatoyante, Bachéré portait à la ceinture, en sus de son épée, son bâton de maréchal du Saldaea, un sceptre d'ivoire couronné d'une tête de loup en or. À force d'être ciré, ses bottes à revers brillaient plus que des miroirs. Rand tenta de ne pas laisser transparaître son soulagement. Ses ambassadeurs étaient restés absents bien trop longtemps.
« Alors ?» demanda-t-il. Les Séanchaliens sont bien disposés. Fou allié, mais ta proposition les intéresse. Cela dit, ils veulent te voir en personne. Le maréchal du Saldaea n'est pas le dragon réincarné. Une rencontre avec la haute dame Surot ?
Bachéré secoua la tête.
Si j'ai bien compris, un membre de la famille impériale a débarqué. Surot veut que tu t'entretiennes avec une certaine fille des Neuf Lunes.
Ponctuant des éclairs, le tonnerre roula dans le lointain. Vous venez d'écouter La Roue du Temps, tome 10, Le Carrefour du Crépuscule, de Robert Jordan, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Arnaud Leridan. Une production Audible Studio.